Nous sommes vendredi 9 février au siège d'Havas, dans le bureau de Jacques Séguéla. Jacques Séguéla, bonjour, merci de nous recevoir pour Design et Typo, pour cette interview impromptue sur notre métier. J'aimerais savoir, comment avez-vous découvert l'importance de la typographie et de ces 26 minuscules signes de l'alphabet qui délivrent autant de messages, autant de sens et autant de façons différentes aussi de délivrer ces sens?
Moi, je suis fils de Lubaline. J'ai appris la typographie chez Delpire. Parce qu'avant de créer Rousséguéla, j'étais chez Bob Delpire, maître s'il en est, en images et en typographie. Et donc, j'ai toujours eu un goût pour la typographie et toujours compris que la typographie était un signe qui portait un sens, donc qui donnait un sens. Et donc, le choix typographique devait toujours essayer de s'appuyer sur le revers du signe, qui était la vibration que dégageait ce signe, en plus du sens premier du signe.
Vous pensez au son, presque.
On peut presque parler du son qui émane d'une typographie.
Pensez-vous qu'une marque doive se doter d'une typographie originale pour construire la cohérence de sa communication ?
Quand la publicité de marque a démarré, ça, nous étions là dans les années 60-70, la cohérence de la marque est apparue, venant d'ailleurs des États-Unis, et on s'est aperçu qu'il fallait avoir un layout pour dans l'éparpillement qui déjà commençait des messages, entre la presse, l'affichage, les nombreuses éditions, que si on voulait imprimer une image de marque et donner une âme de marque, il fallait avoir une cohérence et typographique et de layout. Et c'est de là qu'est née cette mode du garamond, enfin des typos les unes après les autres, qui fait que comme les publicitaires courent toujours après la mode alors qu'on croit qu'ils la créent, il suffisait qu'une agence imprime la mémoire collective d'une typo qui sortait de l'ordinaire pour que dans les 3 mois qui viennent, toutes les agences se mettent à utiliser la même typo. Mais si on regarde aujourd'hui une des plus belles campagnes mondiales, qui est celle d'Apple, campagne qui a une typo universelle appliquée partout. Si on regarde la meilleure campagne automobile de tous les temps, même si je préférerais que ce soit Citroën, qui est la campagne Volkswagen, elle a la typo basique que la première annonce de Bill Birnbach a délivrée il y a aujourd'hui 50 ans. Une marque, une fois qu'elle a choisi une typo, le problème c'est que l'agence qui lui a fait choisir ce typo le fait d'une façon plutôt dans le vent du moment que dans le vent de l'histoire. Quand les marques auront compris ça, elles vont exiger de leur géant de leur donner une typo spécifique. Sinon, vous avez complètement raison, on va arriver à des chocs de typos qui vont devenir des affaires d'État pour les marques. Moi, je me souviens que pour les marques, on créait des typographies. Delpire a créé une typographie pour Citroën, qui n'était qu'à Citroën. La typo doit être la légende du visuel que requiert la typo.
Jacques, une typo noire, unique, le Franklin, des boîtes blanches, ça vous rappelle quelque chose? C'est un de vos plus grands succès retentissants au cours des 30 dernières années. J'aimerais que vous reveniez sur les produits libres Carrefour.
La campagne qui vous a marqué, ne m'étonne pas qu'elle vous ait marqué, puis ça a été la campagne qui a le plus marqué les Français dans les 25 dernières années. Elle a marqué les Français parce qu'elle était le dépouillement absolu. C'est pas tellement d'ailleurs la typo. La typo était là pour illustrer le propos. Le propos était pourquoi payer plus cher ce qui n'est qu'une marque. Ce qui était exceptionnel, c'est que le paquet Domo s'appelait lessive. Il y avait un paquet blanc avec le mot lessive. L'huile s'appelait huile, le sucre s'appelait sucre, le café s'appelait café. Et là, il ne pouvait y avoir qu'une typo incroyablement dépouillée et quand même forte et populaire.
Jacques, grâce à Internet, le caractère typographique n'a jamais été aussi mobile depuis l'invention de Gutenberg. Qu'est-ce que vous en pensez?
Comme nous sommes dans une société d'éclatement, et c'est merveilleux, ça complique beaucoup notre métier à l'époque. Pour lancer une marque, on faisait une affiche, une annonce et un spot à 20h, et 90% des Français avaient perçu le message. Alors, c'était facile, notre métier. Aujourd'hui, outre qu'il y a 400 télés alors qu'il y en avait deux, j'ai même connu une, moi, je ne sais pas combien de radios alors qu'il y en avait trois, et que les journaux sont multipliés aussi par 100, et que le net est multiplié par le milliard, alors là, tout d'un coup, on est obligé d'aller encore plus vers la concentration, encore plus vers le code visuel, encore plus vers le code typographique. Mais c'est pas le premier souci des créatifs. Moi, ce qui me perturbe, c'est que le net est en train de tuer la typo. Et ça, c'est une catastrophe. Cette espèce d'écriture universelle, d'un caractère immonde, qui nous envahit tous les jours, où il n'y a même pas de mise en page possible, où la dégradation des mots s'enchaîne avec la dégradation des signes. On n'écrit plus, on parle, et donc du sens. Les SMS qui détruisent l'orthographe, la culture et le vocabulaire de nos enfants. Finalement, le numérique est en train de tuer la culture. Et je dis, SOS, revenons à la typographie. Car les créatifs qui ne créent plus, ils recréent des images qu'ils ont volées au net ou qu'ils assemblent sur le net. Ils font du copier-coller, du cyber-copier-coller. Hein. Bon. Et il n'y a aucune réflexion typographique. D'ailleurs, donc je pense qu'on est dans un temps destructeur. Le progrès se fait comme ça. Hein. Toute nouvelle invention qui arrive détruit. Et après, elle reconstruit. Après, hein. Et que l'on va aller vers un temps de reconstruction de la typo, d'autant que la typo commence à s'emparer des télévisions par le principe de l'habillage. Alors, tous les habillages se ressemblent encore aujourd'hui. Toujours pareil, problème de mode. Hein. C'est finalement LCI qui a lancé la mode. Alors, tout le monde est rouge, et tout le monde a une typo, et tout le monde a une petite ligne qui court en bas, etc. C'est même en train maintenant d'en arriver à la 2 et à la 3. Donc, demain, ça sera sur la 1. Et après cette première phase de l'arrivée de la typo sur les images, qui est quand même une grande évolution, on va avoir la multiplication des typos et chaque chaîne qui va vouloir adopter sa propre typo et se différencier par sa typo.
Peut-on opposer la typographie anglo-saxonne avec celle de nos pays latins ?
Les anglo-saxons, dans les anglo-saxons, je mets les Suisses, je mets les Hollandais, je mets les pays nordiques, sont beaucoup plus stricts, beaucoup plus esthétiques au niveau des layouts, enfin des mises en page, beaucoup plus rigoureux sur le respect de leur code graphique. Et c'est pour ça qu'ils sont des meilleurs auteurs de print que nous. Nous, les latins, on est dans notre typo. Dis-moi qui tu es, je te dirai quelle est ta typo. On est bordélique dans nos typos, on est exubérant, on est toujours à la limite de la vulgarité, on n'est pas des très bons faiseurs de print.
Au moment où la presse va mal, les tirages des quotidiens ne cessent de baisser, Bolloré vient de sortir un gratuit du soir, et puis avec Le Monde en partenariat, un quotidien du matin, Matin Plus, il semblerait que vous ayez une vision assez précise de la sortie de crise de la presse.
Alors, d'abord, le problème de la presse en France est un problème de moyens. Il n'y a pas de grand tirage. Parce que la presse de région a étouffé et bunkérisé la presse nationale, qui n'est plus qu'une presse parisienne. Parce qu'eux sont nationaux et que nous, on a les forteresses de presse régionale qui occupent leur terrain et qui sont pas prêts de le lâcher. Et donc, finalement, la presse n'a plus tellement les moyens d'apporter la qualité qu'elle devrait apporter. Deuxièmement, cette presse de gratuit, c'est une presse qui s'adresse aux 18-35 ans qui n'ont jamais lu. Cette jeunesse qui prend les transports en commun, elle n'a jamais lu de quotidien, elle déteste la politique, elle est intéressée par le sport, le cinéma, le théâtre, les people, les renseignements pratiques, la beauté, la forme, la santé, tout ce que les quotidiens ne savent pas leur donner. Elle a 15 minutes à donner à un journal. Bon. Or, une image vaut 1000 mots, disait Mao Tse-tung. Donc, je pense que nous allons vers une presse à 3 étages. Le Monde, dans 10 ans, aura un tiers de ses lecteurs sur le net, qui ne sera pas du tout Le Monde dans le net, mais qui sera Télénet, où les journalistes du Monde, 24 heures sur 24, en permanence, de leur salle de rédaction, donneront les nouvelles, et ce sera un tiers du lectorat. Le deuxième tiers du lectorat Ce sera la presse gratuite, d'où la très bonne idée du Monde de s'associer avec nous pour faire un gratuit qui démode tous les autres gratuits, parce qu'il y a le poids des mots et le choc des photos. Mais s'il n'y avait pas le poids des mots et le choc des photos, ce très beau slogan de Roger Théron, ça ne marcherait pas. Alors, sur le directoire, même s'il est un peu lourd encore, un peu vulgaire, il n'a pas encore trouvé sa forme en définitive, c'est un journal du soir où, au fait que l'on ne donne que 10 à 15 minutes, s'ajoute le fait que l'on est crevé, s'est fait engueuler par son patron, engueulé par ses clients, on en a marre, on rentre chez soi. Alors, c'est vraiment pas le moment que les politiques viennent nous resservir leur sauce ou de voir les drames du monde. C'est le moment de commencer à préparer sa journée. C'est un access, comme il y a des prime time, c'est un access soirée. Et on va beaucoup plus axer le journal là-dessus. Et ça passe d'abord par l'image. Et ça passe par le côté news magazine plus que par le côté quotidien. Parce que ça, c'est un quotidien qui est fait comme un news.
Bien sûr.
C'est une maquette hebdomadaire. Oui. C'est complètement oui, du magazine.
Oui, oui.
Alors, j'ai oublié de parler du troisième tiers. Hein. Le troisième tiers, ça sera un monde sur papier glacé, certainement d'un format plus petit, entre le monde d'aujourd'hui et la lettre confidentielle, avec des grandes signatures, avec des articles de fond, avec des news qui n'auront pas été données dans les autres journaux plus sectorisés. Et qui sera sur abonnement, par portage, qui vaudra 5 fois le prix du Monde et qui s'adressera simplement à 100 000, 150 000 lecteurs du Monde, qui voudront toujours l'objet papier, parce que la sensualité, le net est bien joli, mais il n'y a aucune sensualité dans le net, c'est totalement artificiel. Et d'ailleurs, ça nous amène dans un monde totalement virtuel, tandis que le papier, on l'a... Merci. Le papier, on l'a dans ses mains. Bon, on commence par une double. Là, en un coup d'œil, tu sais tout ce qui s'est passé en Île-de-France. Un grand papier du Monde, et puis on reprend ici. Et tu vois, et là, tout ça, c'est du magazine. C'est du magazine. On reprend le Monde. À nouveau, on a une double page photo. Et puis, on a ici une page courrier international. Et puis après, on va rentrer dans les pages que les gens attendent, c'est-à-dire le sport, mais dans la culture, dans la télé, et puis on va avoir deux pages de télé.
Et Jacques continue de feuilleter ses quotidiens, direct soir, matin plus. Et pour l'anecdote, il faut savoir qu'il en assure personnellement le bouclage, en contrôle la qualité, etc. Enfin bref, c'est un monsieur très jeune, il a 73 ans.